Guillaume.
La radio qui nous connecte.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 avril 2022, il est 17h45. Vous êtes à l'écoute de Radio Mycélium, la radio de la raffinerie. La raffinerie, un tiers-lieu situé à Saint-Paul sur l'île de la Réunion. Une friche éco-culturelle où il se passe plein de choses, notamment des chantiers participatifs où tu peux venir mettre la main dans la terre et t'occuper de la micro-forêt, nourrir les poissons de la serre aquaponique ou encore cuisiner pour tous nos super bénévoles. Il y a aussi les cafés culturels, le cinéma en plein air, des ateliers de réparation de vélos ou de textiles. Bref, chantier, atelier, événement en lien avec l'environnement ou la culture. On a décidé de faire un zoom sur ces activités par le biais de cette émission. Alors, histoire que vous compreniez le pourquoi du comment. Donc, bienvenue à vous dans Micromonde. Je suis ravie de vous retrouver avec, après une petite pause de un mois, une fine équipe encore et toujours aujourd'hui avec mon acolyte Guillaume. Bonjour.
Bonjour à tous.
Guillaume à la technique, encore ouais. Et toujours. Petite case dédiée à Jonas, de l'autre côté de la mer. Et nous avons aussi également Manon. Salut.
Salut.
Et du coup, moi-même France. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à deux concepts assez proches. L'un concerne l'agriculture paysanne et l'autre concerne les activités culturelles. Le premier concept, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, ou plus simplement AMAP. On aura le plaisir d'interviewer juste après nos trois invités qui vont venir nous parler de la map de la raffinerie. Puisque toutes les semaines, on reçoit des paniers de légumes qui sont distribués. Donc, on va voir avec eux le concept, depuis quand ça existe, comment on fait pour adhérer, etc., etc. Mais avant tout ça, on va commencer avec Manon qui va nous parler d'AMAC.
Tout à fait. Alors, vous l'avez sans doute vu sur notre programmation du mois d'avril. Le 29 avril prochain, nous programmons une soirée de lancement de la MAC. Alors non, chers auditeurs et auditrices, ça aurait pu être une idée un peu farfelue de notre part de vous convier à une soirée relaxation dans vos hamacs 2 secondes sur une petite berceuse, mais on va garder l'idée pour plus tard. Ne soyez pas déçus, comme un grand homme l'a dit, il faut toujours garder un optimisme inébranlable. Planter un gland dans la terre, en planter un autre un mètre plus loin, l'arroser et partir en courant chercher un hamac. Vous savez qui c'est qui a dit ça?
Non.
Bah c'est Patrick Sébastien.
Oh merde.
Ah ouais. T'as bien bossé là.
Ouais, t'as vu. J'ai fait elle. Optimisme, vous avez dit. Notre optimisme à nous, il est encore plus grand. Après 2 ans où la culture s'est vue mettre sur pause, il est plus que jamais venu le temps de soutenir celles et ceux qui rêvent et créent pour un monde plus beau et qui produisent des choses dans le but de vraiment permettre des interactions sociales. Donc les AMACA, c'est vraiment le nom global pour parler de l'AMAC, c'est une association pour le maintien des alternatives en matière de culture et de création artistique. Qui ont commencé à voir le jour en 2009 autour de la même idée que la MAPE, avec voilà, l'idée de panier, sauf que là c'est culturel.
À ma pays.
Et à la raffinerie, on utilise le diminutif de la MACA, donc la MAC.
Parce qu'on se le réapproprie aussi.
Et oui. Donc là, si l'idée de la MAC ne se tend pas entre deux arbres, elle tend à ressouder le lien entre citoyens, spectateurs et producteurs.
Ça y est, je l'ai.
Ah, t'es bien. Ah oui, d'accord. Oui, moi aussi, ça met un peu de temps.
Merci.
Tout le monde l'a eu.
On propose aux gens de s'abonner sur une saison entre 4 et 6 mois, qui serait payée d'avance, afin de créer un fonds d'action culturelle. Celui-ci est complété par une partie des subventions publiques et du mécénat privé. Et chaque mois, les Amakiens, donc les abonnés, se réunissent et complotent, copilotent.
Moi, j'ai cru que ça faisait vraiment partie de tes blagues, de ton scénario.
Ouais, moi aussi. C'est une bonne
actrice. Ça complote.
Hein. Qu'est-ce qu'ils complotent alors, les Amakiens?
Ils complotent ensemble le projet. ils vont définir ensemble les projets d'action culturelle qui leur tient à cœur. De financer durant la saison. Et donc là, ça va constituer une sorte de panier, mais qu'on met vraiment entre guillemets et on y tient, parce que ça peut prendre une forme matérielle ou non. C'est-à-dire que ça peut se composer soit d'un temps d'échange avec les acteurs ou artistes concernés, l'accès à une étape de travail, une sérigraphie. Voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire et ça dépend vraiment de ce que propose l'artiste et ce qu'il peut mettre en place, quoi. Et je voulais vous donner un petit exemple de Raph de la raffinerie.
Raph.
Oui, je n'invente pas du tout cet exemple. Le personnage, il existe vraiment et je vous souhaite de le rencontrer. Raph, il souhaitait développer son activité de finger skate. Pour ceux qui ne connaissent pas, le finger skate, c'est du skateboard qui se pratique non pas avec les jambes, mais avec les doigts et sur des mini-boards de, je sais pas, ça va faire 5 cm, je pense. Et donc là, la Maca 2020, ça lui a permis de financer une partie de son projet en lui donnant accès à un atelier de menuiserie de la raffinerie. Et il a pu du coup construire des mini-modules et skatepark dans le et mini skatepark hein, dans le quartier de Savannah.
D'ailleurs, on s'était questionné à l'époque si est-ce que le Manon, est-ce que le finger skate c'est de la culture?
Mais bien sûr. Ah. Moi, je trouve que c'est un super exemple pour illustrer la Mac parce que ça donne vraiment à voir ce qu'on entend par le terme de culture et en soi, c'est pas juste artistique. Bon, après, qu'est-ce que l'art? Mais là, c'est vraiment un ensemble de pratiques. Et du coup, le finger skate ou même la cuisine, les jeux vidéo, tout ça, ça fait partie de nos cultures. Les langues font partie de nos cultures parce qu'on les pratique et qu'ensemble, on fait société. Le principe de la MAC, il replace vraiment les citoyens au cœur des décisions de l'action culturelle. Il dépasse largement le simple échange marchand et de la consommation culturelle. Et en somme, c'est une forme de micro-mécénat de la culture, quoi. On invite vraiment chacun et chacune à participer à la co-création des projets culturels. Voilà. Et j'ai une belle phrase de Victor Hugo qui disait « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Et moi, je trouve que de façon plus contemporaine, on pourrait aussi affirmer qu'aujourd'hui, c'est la MAC, le circuit le plus court. Voilà. Ouais. On est vraiment dans un bel exemple de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, quoi.
C'est sûr que c'est pas Patrick Sébastien qui a dit ça. Je confonds les deux à chaque fois.
C'est que des lumières. Ouais. Et du coup, comment on fait pour devenir amakien?
Alors, ah. Dis-nous en plus.
Alors, ah. Et ben, du coup, il faut s'abonner. Il faut donc voilà, c'est pas seulement sortir le porte-monnaie, c'est aussi participer à au moins une des réunions de copilotage dans la saison parce que voilà, les amakiens vont se réunir, je sais pas, une fois par mois ou plus si nécessaire. On demande aussi que les amakiens fassent un nombre d'heures de bénévolat à la raffinerie. Je sais pas, 3 heures par saison, ça semble assez, mais en tout cas vraiment pour avoir un engagement plus poussé au sein de la raffinerie. Et c'est pareil pour les artistes, on souhaite qu'eux aussi soient impliqués dans le projet de la raffinerie au sens global, de quelconque façon, c'est-à-dire participer à un chantier du mercredi, être bénévole quelques soirs ou animer un atelier, par exemple.
Une saison, comme la saison des pluies, c'est
quoi une saison? Non, c'est des saisons, qu'est-ce qu'une saison? C'est 4 à 6 mois, quoi. Voilà. Okay.
Je le savais, mais c'était...
Bah oui,
si jamais. Et donc la soirée de lancement de la saison de la MAC, le 29 avril, qu'est-ce qu'on vous réserve? Plein de choses. En soi, je pense que ça va vraiment être très effervescent. Il va y avoir plein de choses différentes, des spectacles d'impro, une batucada, de la pyrotechnie. La pyrotechnie, c'est spectacle de jonglage avec le feu et des échassiers, du maloya, du djing. Et du vidjing. C'est quoi le vidjing déjà, France?
C'est comme le DJ, mais avec des images, quoi. Il mixe des images. Donc il aura plusieurs, peut-être, rétroprojecteurs. Ça va balancer de l'image.
Ouais, ça va balancer du son, du l'image, du feu. Ça va être génial. Et on réserve aussi quelques ateliers voilà, de découverte de ces pratiques. Pas le DJing et le vidjing, je pense pas que ce sera en soi des ateliers, peut-être plutôt...
C'est de la découverte de fonctionnement, de matériel.
Voilà. Et en atelier de pratique, ce sera plutôt sur l'impro, l'art plastique, le cirque. Parce qu'on a aussi des artistes qui vont venir refaire le mur. Et donc cette soirée, elle va constituer le premier panier en fait de la saison du mois d'avril. Et voilà, bah, on compte bientôt vous expliquer.
Il y aura une petite sérigraphie aussi.
Ah oui.
Pour ce premier panier culturel entre guillemets, voilà, les personnes qui viendront adhérer, voilà, elles bénéficieront donc de cette soirée et d'une sérigraphie. Mais c'est pas de les gens ne sont pas obligés.
Hein? De Pandacrew.
Yes, ok.
Yes.
Mais voilà, les gens qui viennent le vendredi 29 avril, ils ne sont pas obligés d'adhérer à la MAC. Il faut juste adhérer déjà à l'association, comme toutes nos soirées en fait. Ouais. Et puis ceux qui ont envie de plus, voilà, ils pourront adhérer.
En tout cas, ça permet de faire découvrir ce que c'est.
Ils ne sont pas obligés. Ceux qui n'adhèrent pas, ce n'est pas grave. Non. Non, on leur en voudra. Non, on leur en voudra pas.
Non.
Oh, non, non, mais c'est pas grave.
Non, c'est pas très.
Il y a pas de souci. Il y a pas de souci si vous adhérez pas.
Personne.
Aucun souci. Vraiment, c'est pas grave. Pas grave du tout.
Non.
Non. Non, mais je veux dire.
En plus, on n'est pas du tout rancuniers.
Il y a aucun problème si voilà. Vous adhérez pas. Je veux dire.
On pousse pas à la consommation.
Non, jamais,
jamais. En tout cas, ça va faire un beau panier. Voilà.
Voilà. Ben, rendez-vous le vendredi 29 avril. Donc, dès 17h. Hein,
Ouais, on vous dira quoi.
Ouais, on va faire tourner bientôt tout ça sur Internet.
Super.
Et France Guillaume.
Oui.
Est-ce que ça sent la blague.
Qu'est-ce que font les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord?
Alors
Il dit dehors.
En plus, tu nous... Non. Ouais, je sais pas.
Ah oui. Ouais.
Et ben, ils font un tirage aux sorts.
Et il y a un lien avec la marque ou c'est quoi le...
Non, non genre, en fait j'ai failli dire il stigmerge, ça aurait pu être sympa, mais tirage aux ouais. Autres, je trouve ça cool.
C'était ouais, ouais.
Voilà. C'est toi qui as inventé la blague ou quoi?
Non, non, ça s'appelle les blagues de papa, tout ça, un peu partout.
Donc c'est juste comme ça, c'est gratuit quoi, c'est parce que...
Ouais, ouais, j'en ai plein, attends,
parce qu'on est en avril.
Ouais,
bon,
Non, mais c'est bon, ça va. Hein.
Je sais plus lesquels j'ai fait la dernière fois. Alors, quel animal peut lire l'avenir?
Ah oui, attends, tu me l'avais faite celle-là.
Non,
je l'ai faite en off, je ne l'ai pas faite.
Ah, tu l'as faite en off. Quel
animal peut lire l'avenir? Une poule de cristal.
Ah. Oui, bah, c'était Manon. Et donc, pour soutenir Manon pour le prochain, pour ses prochaines créations de blagues, ça peut se passer avec la Mac. Et donc,
sur scène.
Scène.
Manon, elle va nous faire une scène où elle va monter. Scène ouverte.
Financer le prochain spectacle de Manon.
Ah ouais, moi, je paye pour ça, hein, franchement.
Venez déjà m'aider à les écrire, s'il vous plaît.
Eh bien, merci beaucoup, Manon.
Eh bien, merci beaucoup, Manon.
Mais je vous en prie, à bientôt.
Radio Mycélium.
La radio qui nous connecte.
De retour dans l'émission Micromonde. Après avoir donc parlé de la MAC avec Manon, on va maintenant s'intéresser à la MAP de la raffinerie. On est en compagnie de deux femmes exceptionnelles. Attention, hein, c'est vos mots. Alix et Lisa, bonsoir.
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 Vous êtes les bienveillantes de la MAP. Et on a aussi Johnny, l'un des producteurs de cette AMAP. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors en tout, vous êtes quatre bienveillants de la MAP à la raffinerie. Il y a aussi Nini et Nico qu'on salue. Alors on va commencer par le début, tout simplement. AMAP, donc ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est ce concept?
Alors, la MAP à la raffinerie, ça existe depuis 4 ou 5 ans, je crois.
Mais d'une manière générale, voilà.
Et du coup, bah, c'est un contrat, en fait, qui entre des producteurs, maraîchers, producteurs, agriculteurs, et puis des consommateurs, qui se mettent d'accord, en fait, sur voilà, une livraison de paniers. Donc, pour l'agriculteur, bah, c'est l'assurance, la pérennité, l'assurance d'avoir des revenus pérennes le temps du contrat. Et puis pour les consommateurs, eh ben, c'est le bénéfice d'un panier hebdomadaire avec les légumes du maraîcher, des maraîchers, en circuit court. Donc c'est aussi la particularité de la MAP, c'est direct producteur, il n'y a pas de revendeur.
Et juste pour compléter, on est sur des produits bio.
Voilà, okay. On a fait le choix de faire, ouais, de prendre des maraîchers labellisés AB, même si parfois il peut y avoir des choses à dire, hein, sur la labellisation AB aussi, ou voilà. Mais ça permet aussi d'avoir une traçabilité en fait pour les consommateurs et d'avoir au moins un cadre de référence. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais nous on peut travailler en bio, mais on n'a pas le label AB, voilà. C'est vrai que la question peut se poser, mais nous, on a fait le choix à la raffinerie de AB pour voilà, assurer aux consommateurs. En tout cas, on est sur le, voilà, on se comprend sur la même lecture.
Et alors, pourquoi une AMAP à la raffinerie,
Lisa?
Pourquoi pas?
Pourquoi une AMAP? Bah, pourquoi pas, oui.
C'est une bonne réponse, ça.
Non, je pense que ça fait... Enfin, la raffinerie étant aussi un tiers-lieu et favorisant la rencontre de différents mondes, de différents types de personnes, de différents projets, au final, ça s'intègre très bien au final, dans le paysage de la raffinerie.
C'était une logique, quoi.
Oui, puis ça a commencé très tôt, la MAP, parce que ça a débuté... avec des rencontres alternatives, je crois. Voilà.
La raffinerie n'existait pas encore.
Voilà, la raffinerie n'existait pas. Et donc, du coup, il me semble que les distributions à MAP avaient lieu justement sur le lieu des rencontres alternatives, donc au Guillaume. Et puis après, donc, quand voilà, le lieu de la MAP, de la raffinerie, pardon, s'est créé, la MAP s'est déplacée à la raffinerie. Donc, c'est plutôt une continuité. Et puis voilà, c'est l'idée aussi voilà, de l'alimentation, se rapprocher de la nature... certaines valeurs aussi qui sont liées voilà, à l'écologie, une alimentation durable.
Tout ça quoi.
Voilà.
Alors, vous travaillez avec combien de producteurs en tout?
Alors, on travaille avec 4 producteurs, 2 producteurs de fruits et légumes bio, 1 producteur de pain bio et une productrice d'œufs bio toujours.
D'accord.
Voilà, il y en a 2, donc 2 maraîchers situés au Guillaume. Une productrice d'œufs à Saint-Leu, Sandra, que l'on salue aussi. Et depuis récemment, oui, du pain, avec la boulangerie Cassava.
Alors, du coup, on est en compagnie de l'un des producteurs, Johnny. Comment t'en es venu à ce métier?
Alors, pour moi, c'était un choix que j'ai fait bientôt, c'est-à-dire depuis mon jeune âge. J'avais le choix... d'être comme mes parents, c'est-à-dire ils étaient dans du commerce et aussi ma mère qui était plus, on va dire, pas agricultrice, mais on va dire elle avait son petit potager et puis de temps en temps elle aussi, elle partait vers des personnes avec son panier très jeune et puis de porte à porte. À faire ça comme on le faisait auparavant chez nous. Et puis...
C'est où chez vous? T'es originaire d'où?
Du Guillaume Saint-Paul. Donc elle faisait ça. Et puis arrivé à un certain âge, mon père m'a demandé est-ce que tout simplement c'est plus le commerce qui m'intéresse. C'est-à-dire lui, il était plus dans... On va dire, il avait une station-service. Donc, et en même temps, il m'a dit exactement c'est quoi vraiment ton choix. Donc, moi, ce n'était pas compliqué à cette époque. J'aimais ma liberté, j'aimais aussi un grand espace, j'aimais aussi les animaux, car j'ai grandi avec une petite ferme, on va dire, hein, donc une mini-ferme avec des poules, des canards, des chiens, des oies. Donc, tous les jours, on me cherchait, j'étais toujours avec les animaux. Donc, pour moi, c'était évident que le choix que j'allais faire, c'était plus dans ce domaine. Donc, par la suite, après, pour acquérir une parcelle, il fallait avoir des diplômes, donc avoir un minimum de connaissances. Et puis, j'ai tout fait pour avoir le diplôme, pouvoir après m'installer dans le domaine agricole. Et c'est vrai que dès le départ, c'était plus, on parlait, même si on le faisait chez nous, une agriculture saine, hein, parce qu'à l'époque, on récupérait tout le fumier qu'on avait avec les animaux, on ne traitait pas, donc ça n'existait pas pour nous, les traitements chimiques qu'on voyait qui se développaient autour de nous. Donc, on le faisait naturellement et ça marchait très bien. Donc après, c'est vrai, en allant à l'école, nous, on a été conditionnés pour travailler plus dans la productivité. Donc malheureusement, on nous a montré qu'il fallait passer par là pour avoir une production plus intense, une production, on va dire, plus viable. C'était dans ce sens-là, à l'époque, qu'on nous a formés. Et bon, je l'ai fait, malheureusement, pendant quelques années. Et puis... ça fonctionnait à l'époque très bien, donc je pense que ça aurait toujours fonctionné. Mais après quelques années, je me suis dit, rester comme ça. Et puis on parle souvent d'évolution, on va dire d'environnement, commencer à en parler, et aussi d'écologie. Donc pour moi, c'était pas quelque chose qui était quelque chose que j'apprenais de nouveau. Je savais que mes parents cultivaient comme ça. Et puis, je me suis dit, on nous a montré autrement comment produire. C'est vrai qu'on voyait qu'il y avait des résultats, mais je savais aussi que la façon que mes parents le faisaient, il y avait aussi des très bons résultats. Donc, je me suis dit, mais pourquoi continuer dans cette démarche de pouvoir travailler avec des produits chimiques alors que mes parents le font naturellement, je les fais naturellement. Donc pour moi, c'était pareil, une logique de dire, si je veux évoluer dans ce sens-là, dans ce métier-là, autant le faire sainement, ne serait-ce pour moi, et déjà pour moi, pour mes enfants, et aussi d'un point de vue d'environnement, la clientèle planétaire. Donc c'était dans ce sens-là, pour moi, assez logique.
Donc, tu as toujours commencé en agriculture raisonnée ou bio ?
Raisonnée. Parce qu'au départ, j'étais pas trop l'adepte aussi de produits phyto. Donc, je travaillais plus raisonné parce que c'est vrai que maintenant, quand je pense, c'était plus des produits que je mettais quand je voyais qu'il y avait un problème sur l'exploitation. Une petite parenthèse, c'était plus quand je me suis installé, c'était dans la fleur coupée. Et là, ça demande quand même une maîtrise, on va dire, un peu plus poussée par rapport au maraîchage. C'est des plantes qui sont très sensibles, qui sont très fragiles. Donc, on travaillait sous des serres. Et là, c'est techniquement, il fallait quand même maîtriser la culture. Donc, ça demandait d'intervenir, on va dire, un peu plus souvent.
Tu as dit la fleur coupée ?
La fleur coupée, c'est-à-dire la fleur qu'on offre à, tout simplement, à une personne où on travaille avec les fleuristes. Donc, le premier métier que j'ai fait, c'était D'accord. plus la fleur coupée. Et puis voilà, ça marchait très bien à l'époque, je me souviens. C'était avec les grandes surfaces aussi que je travaillais à l'époque. C'était les livraisons dans toutes les grandes surfaces. C'était approvisionner ces magasins. Donc, dès le départ, je suis m'intégrer dans ce domaine-là et aussi prendre une part de marché. Donc, livrer, dans toutes les grandes surfaces que je faisais à l'époque. Mais après, voilà, donc... Après un certain nombre de temps, voilà, il y a une remise en cause qui s'est faite. Et puis, je me suis dit, si c'est pour travailler toujours pareil, avec des produits, et puis voilà, ce n'était pas valorisant pour moi. Donc, c'est sûr que j'ai fait une pause. J'ai mis l'exploitation en stand-by pendant 2-3 ans, le temps de faire, on va dire, un petit peu un travail sur moi-même. Et pendant ces 3 ans, je me suis dit, si je reprends l'exploitation, ça va être autrement. Donc, ce qui s'est fait... La démarche de la conversion, c'était rapide parce que comme le terrain était déjà, on va dire, en friche au bout de 3 années, donc la conversion était très rapide. Donc voilà, le pas s'est refait après automatiquement en partant directement avec le label bio pour montrer derrière qu'au niveau de la clientèle, que quand même il y a un suivi qui prouve que quand même que c'est du sérieux. Parce que c'est bien beau de dire que, comme on voit beaucoup de maraîchers qui disent que le produit est bio, mais rien ne le prouve, franchement, s'il n'y a pas de contrôle. Moi, je me suis dit, autant bien le faire, quitte à payer le label, moins si les gens ont un doute, qu'ils peuvent venir sur l'exploitation et aussi voir que, quand même, il y a un contrôle d'État qui est fait derrière. Voilà.
Ouais, donc pour toi, la conversion, elle a été facile, entre guillemets, parce que tu as fait une pause, mais pour un producteur qui veut passer d'une agriculture lambda à bio, là, c'est pas pareil, c'est un peu le parcours du combattant.
Je pense que c'est le parcours du combattant, mais à un certain moment, il faudrait bien faire le pas, parce que, je vais dire, moi, je me souviens, quand je me suis installé, on était une trentaine de producteurs bio. Aujourd'hui, je ne sais plus, apparemment, il y en a bien plus. Mais c'est sûr, il y a avant tout.
Dur à trouver sur le marché, hein, franchement.
C'est sûr, mais on a progressé. On a progressé parce que je pense qu'aujourd'hui, on est bien au-delà d'une centaine de producteurs. Et voilà, donc le but, c'est de dire que ça part toujours dans le bon sens. On gagne des parts de marché, même si c'est à La Réunion, on va dire que ça ne représente pas grand-chose. Mais d'année en année, on a plus d'installations qui se font en bio. Et pour nous, c'est bénéfique d'un point de vue local. Donc ça, c'est sûr pour moi. Après, c'est vrai, il y a un gros travail à faire aussi. Une personne qui vient du conventionnel, du jour au lendemain, on lui dit de passer en bio. Il a toujours l'habitude de travailler avec des produits phyto. Il sait plus ou moins le rendement. Et c'est à nous de montrer aujourd'hui, en tant qu'agriculteur bio, que le projet nous-mêmes, que l'activité qu'on fait, qui est déjà montré que c'est viable. Et aussi, qu'ils puissent voir aussi ce qu'on fait, le fait de venir ici à la raffinerie, montrer que derrière, le projet lui-même déjà s'est pérennisé. Hein. On vient toutes les semaines, c'est fait, on livre. On a aussi l'étroite collaboration entre les clients. Donc ça, c'est quelque chose que ça, on ne voit pas souvent sur les marchés forains. Donc le client, il est libre sur le marché, il va là où il veut. Et tandis que là, on voit quand même, on crée quand même un lien. Ça, c'est très important de le dire. Et puis, je pense que nous, en tant qu'agriculteurs bio, c'est de montrer que le métier est viable et que le fait de tous les jours, de travailler dedans et de montrer qu'on est toujours là, je pense que de plus en plus de jeunes vont prendre conscience que c'est quelque chose qui peut se faire. Mais c'est sûr qu'il faut déjà montrer nous-mêmes que c'est déjà viable pour nous. Ça, pour moi, c'est plus important.
Il y a peut-être un peu moins de quantité, mais c'est la qualité, quoi.
La quantité, je peux dire qu'on est aussi productif que du conventionnel. Ça, je peux le montrer chez moi. Hein, donc, on peut travailler dans ce sens. Là-dessus, je dirais un petit peu le sens contraire à ce qu'on entend souvent. On peut être aussi productif sur l'exploitation, avoir les mêmes rendements, mais c'est de travailler autrement.
C'est une idée reçue, en fait.
C'est exactement ça. Donc, je pense que techniquement, c'est sûr qu'on... En amenant plus d'apports au niveau du sol, donc on peut avoir les mêmes rendements. Là-dessus, je peux démontrer même à des gars du conventionnel que c'est faisable, tout simplement.
Alix, tu voulais dire quelque chose ?
Non, moi, je voulais rebondir sur le lien que tu évoquais avec les Amapiens. Mmh. Et c'est vrai que, oui, on n'en a pas parlé dans le contrat AMAP, mais oui, un contrat AMAP, c'est... Okay, on paye un maraîcher, donc un panier toutes les semaines, on a droit à ce panier. Mais à travers ça aussi, on a un contact. Nous, à la raffinerie, du coup, on organise aussi des chantiers participatifs chez les maraîchers. Donc c'est l'occasion aussi pour les Amapiens de pouvoir voir à quoi ressemble une exploitation, pouvoir donner un coup de main. Et puis même toute l'année, à travers les paniers que l'on a, on se rend compte aussi des difficultés que peuvent rencontrer les maraîchers, pour ne pas citer le mois dernier, hein, avec les deux cyclones qui sont passés, on s'en rend compte dans le panier. Et voilà, souvent, je trouve que quand on va dans des grandes surfaces, quand on va, on achète sans forcément se rendre compte de tout ça, de tous ces aléas climatiques, de toutes ces difficultés que peuvent rencontrer les maraîchers, ou au contraire aussi, des fois, il y a des années avec des grosses récoltes et on en a plus aussi dans le panier. C'est-à-dire que ça se ressent. Je trouve que c'est beaucoup plus direct, on va dire, le lien justement qu'on a avec les producteurs. Et ça sensibilise, je trouve, énormément sur, sur la nature, sur les aléas, sur le métier d'agriculteur, de maraîcher, qui est...
Qui est assez difficile, on va dire, comme métier.
Ouais, difficile, ouais.
Il faut le dire quand même, ça reste quand même de l'agriculture et on sait très bien que physiquement, il faut quand même y aller quand même. Donc, c'est pour ça, donc, d'où l'intérêt de faire des visites, même des participations sur l'exploitation pour montrer que la difficulté du travail et aussi, ça répond aussi un petit peu à ce que tu disais, c'est qu'on voit dans les paniers à ce moment que le produit, on va dire, qui n'est pas vraiment top. C'est que derrière, malheureusement, on a quand même pas mal de contraintes et on se retrouve souvent avec des produits que les gens, forcément, n'aiment pas vraiment. Donc ça, c'est bien de le dire que le fait de connaître l'agriculture et mieux encore l'exploitation, de voir un petit peu comment ça fonctionne, donc on sait que par la suite, c'est plus facile de faire comprendre les gens que d'où la difficulté de produire. Donc, alors qu'on ne le voit pas forcément, malheureusement, sur les marchés forains, et là, c'est quand même malheureux. C'est pareil, hein, c'est toujours des ventes, et puis la personne ne se pose pas la question comment c'est fait derrière.
Moi, je voulais dire quand même qu'ils avaient du bon, quand même, les deux cyclones. Parce que moi, j'ai découvert les vrais chouchous que je n'achetais jamais sur les marchés. Parce qu'à chaque fois, c'était toujours 3 tonnes de travail. Je me disais, non, c'est bon. Et là, depuis les cyclones, on a du vrai chouchou. J'adore ça.
Ah.
J'adore les breads chouchous. Et en fait, je trouve ça vache, mais c'est même meilleur que les autres breads. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Et je l'ai fait comme tu m'as dit, les faire, Johnny. Et sans dédoubler, sans. Voilà, juste, t'enlèves les petits tire-bouchons, tu coupes en petits tronçons et c'est délicieux. Revenu au wok avec un petit peu d'épices, de l'ail.
Après, c'est justement ce que j'allais dire. C'est ça aussi qui est bien, c'est que mine de rien, le fait de se croiser toutes les semaines pour récupérer les fruits et légumes ou d'aller sur l'exploitation, ça permet aussi d'échanger sur les légumes et dont des légumes que moi je ne connaissais pas du tout avant, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu ou même que je n'avais jamais cuisiné, même si je les avais vus. Et c'est aussi en échangeant où on a des petites pistes sur des recettes, sur des techniques justement, sur comment les préparer pour gagner du temps. Et ça, mine de rien, c'est aussi une super plus-value parce que on se rend compte qu'on passe à côté d'énormément de choses juste parce qu'en fait, on ne sait pas et qu'on ne sait pas forcément où aller chercher l'information. Et en fait, il suffit juste d'aller la chercher à la source.
C'est ça. Et puis, on a souvent plus... Avant, moi, quand je faisais mes courses, voilà, comme tout le monde, t'as tendance à tout le temps acheter les mêmes choses. En fait.
C'est clair.
T'achètes tout le temps les mêmes légumes, tout le temps les mêmes fruits. Tu fais, voilà, t'es dans ton truc, dans ta routine. Et la map, justement, ça te surprend parce que t'as pas forcément les légumes auxquels tu t'attends. Bon, il faut faire avec. T'as des fois pendant 3 semaines les mêmes légumes. Bon, ta recette, 3 semaines de suite, c'est...
Tu innoves.
Voilà, donc du coup, tu vas rechercher sur Internet, tu vas essayer de trouver des recettes, tu vas demander à d'autres amapiens et... Et moi, je trouve que c'est très enrichissant.
On va dire ça. Parce que c'est vrai, je sais que souvent qu'on voit les légumes après, comme par exemple simplement les radis noirs, je sais que beaucoup de personnes ne savaient pas comment cuisiner. Et après, en voyant les tutos, on sait très bien après que apparemment que ce soit cru, cuit, donc on peut cuisiner différemment.
Ouais.
Lane Kong, exemple.
Et tout à l'heure, tu parlais de la difficulté du métier. Tu es tout seul sur ton exploitation? Combien vous êtes?
Je suis tout seul aujourd'hui. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. Par le passé, j'avais des employés. Ça demandait quand même, pour moi, c'était une grosse contrainte de pouvoir gérer du personnel. Parce que malheureusement, l'exploitation, faut que ça tourne. Et les contraintes qu'on avait, c'est qu'à un certain moment, les employés avaient des... Bon, c'est normal, ça arrive qu'il y ait des soucis de santé ou tout simplement, ils ne viennent pas sur le travail. Et du coup, ça imposait que les tâches que j'avais à faire, que les autres avaient à faire, ça amplifiait les tâches. Donc, et puis après, voilà, c'est pour moi, c'est un autre monde. Gérer du personnel, je voyais que c'était assez compliqué pour gérer des personnes. Et du coup, j'ai dû revoir complètement la morphologie de l'exploitation. C'est de faire le sens contraire, au lieu d'évoluer dans le sens en termes de volume par rapport au nombre de mètres carrés. J'ai complètement diminué la parcelle. Et comme je dis, aujourd'hui, je travaille seulement sur à peu près 1000 mètres carrés de surface, alors que j'ai une parcelle de 11 hectares. Donc, c'est important de montrer que c'est pas la quantité qui fait vraiment la valeur vraiment d'un travail, c'est surtout comment s'organiser et aussi montrer que même une petite parcelle, un projet peut être viable. Et sachant que de plus en plus, on sait que les terrains, ça devient de plus en plus difficile à en trouver et que on sera malheureusement amené à travailler de plus en plus sur des petites parcelles. Et l'occasion aussi pour moi, c'est de montrer aux jeunes qui viennent sur l'exploitation que même avec 1000 mètres carrés, avec des techniques maintenant que j'emploie moi-même sur l'exploitation, que l'exploitation, qui est viable. Et ça, c'est pour moi très important de le montrer. Alors, c'est une technique, on peut appeler ça la biodynamie. Hein, c'est une façon de densifier les cultures, mais ça fonctionne très bien.
Tu peux nous expliquer alors, pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce concept, qu'est-ce que la biodynamie ?
Tout simplement, la biodynamie, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on entend aussi dire, c'est, on va dire d'une manière générale, c'est de pouvoir produire une culture, on va dire, en bio, mais sachant que on va densifier les parcelles, on va densifier les cultures, c'est-à-dire en conventionnel, pour donner tout simplement comme exemple, eux, ils vont travailler avec une superficie de, par exemple, 25 salades de mètre carré. Aujourd'hui, on peut travailler sur 40 salades de mètre carré. Donc, pour le même mètre carré, on arrive à densifier le rendement.
Mais comment ?
Bah, tout simplement en ramenant de l'amendement un peu plus dans le sol. C'est-à-dire que ça ne change rien. C'est-à-dire c'est comme une personne. Hein. C'est plus qu'on le nourrit. C'est, de plus en plus, ça ne pose pas de problème. Et le sol réagit exactement pareil. C'est-à-dire si on ramène, si on amène directement la matière qu'il faut pour la culture, au lieu de que ce soit 40 salades ou 20 salades, bah, le fait de multiplier aussi bah, l'apport au sol, on montre que c'est possible d'avoir un rendement même plus efficace que le conventionnel.
Donc c'est grâce à un sol très riche.
Exactement, c'est un sol qu'on va nourrir beaucoup plus parce que bah, y a plus, on va dire, d'individus sur la même partie du sol. Donc ça, c'est comme ça. Mais ça fonctionne très bien. Moi, je le fais depuis maintenant pas mal d'années. Pour vous dire qu'une fois, hein, c'est pas par hasard que je suis passé de 1011 hectares à 1000 mètres carrés. C'est qu'aujourd'hui, tout mon résultat est là. Sur 1000 mètres carrés, que ce soit toutes les cultures que je vais faire, c'est la densification et surtout diminuer aussi les coûts de production. Parce que le fait d'aller sur 11 hectares, on sait très bien, là, c'est une mécanisation qui doit se faire automatiquement derrière. Et là, c'est, voilà, on va partir d'un autre monde, c'est-à-dire monde d'endettement, de crédit, pour acheter du matériel, pour renouveler tout ce qui dit le matériel. Et là, c'est le cas contraire, c'est-à-dire le fait de passer sur cette parcelle. Aujourd'hui, j'ai plus de tracteur de ce côté-là pour utiliser sur la parcelle. J'ai même plus la peine d'avoir un motoculteur parce que c'est plus nécessaire. Le fait que j'ai enrichi le sol, ça ne demande même plus d'avoir un motoculteur.
T'as plus de machine ?
Non, plus de machine. Donc, tout se fait maintenant manuellement. Avec des petits outils que d'ailleurs les Amapiens ont vu lors de la visite. Mais voilà, c'est pour montrer que, encore une fois, que c'est une autre manière de travailler, c'est une manière de montrer qu'il y a toujours possibilité d'évoluer dans ce sens et de montrer que le résultat est là. Donc pour moi, c'est tout bénéfique.
C'est positif en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en hésitation de conversion en bio, etc. C'est un joli témoignage. Et combien on retrouve de variétés de légumes ? Et tu as des fruits aussi ? Comment ça
Alors, les fruits, aujourd'hui, c'est plus sur une parcelle que je dirais, c'est plus en arboriculture que j'ai fait un peu de l'avocatier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la production centrée, c'est plus sur du maraîchage. Et là, c'est, on va dire, plus 95% du maraîchage. Parce que c'est un choix que j'ai fait. Hein, parce que tout ce qui dit fruitier, ça demande encore... C'est notre choix, ça demande beaucoup de superficie et ça demande encore beaucoup d'entretien. Et le problème, c'est qu'ici à La Réunion, on a des terrains qui sont accidentés. Et donc, ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour l'entretien. Donc, tout ce qui dit mécanisation dans les hauts, c'est assez compliqué avec des engins. Donc, on risque même de faire des accidents, même très graves par rapport à ça. Donc, c'est pareil, c'est un choix de toujours pareil de dire que voilà, si je fais du maraîchage, ben je sais quoi m'attendre derrière comme travail. Et si je fais de l'arboriculture, ben ça va être plus compliqué parce que je serai obligé de passer dans un investissement pour pouvoir entretenir les parcelles. Et qui dit investissement, donc pour moi, ça va être beaucoup de risques. Ça veut dire beaucoup de risques financiers, ça se trouve reprendre un tracteur, investir dans un tracteur, la mécanisation. Et après, pareil, comme je vous dis encore une fois, le terrain est accidenté. Donc après, ça va être encore compliqué de pouvoir dire travailler dans des bonnes conditions. Donc, c'est un choix que j'ai fait.
Ok. Et alors, si on revient à cette fameuse AMAP de la raffinerie, comment ça se passe ? Un panier, par exemple, il fait combien de kilos ? Combien il y a de variétés de légumes dedans ?
Alors, on ne fonctionne pas par kilo. En fait, on fonctionne par part. Une part coûte 2,50 euros. Et du coup, on a 5 parts par semaine dans le panier.
6.
Et comment vous les calculez ces parts ?
6 parts.
6 parts, oui, pardon.
Toute erreur.
C'était juste pour vérifier qu'Alix suive voilà. Bien, c'est bon.
Je suis toujours.
Donc voilà, donc 6 parts, et donc c'est avec les agriculteurs, et c'est justement en fonction des productions et en fonction du produit et de la pénibilité au travail que du coup la part est calculée.
Il y a un nombre de légumes précis dans une part, par exemple, ou...
Non, ça va vraiment dépendre du...
comme tu dis. Voilà.
Ça dépend du produit.
Voilà, ça dépend,
voilà. Okay. Ça dépend du produit, ouais. Et puis ça dépend, je ne sais plus ce que je veux
dire. Du moment aussi de la saison. C'est vrai que des fois, on peut avoir... voilà, ça peut être une part de citrouille, ça peut être un kilo de pommes de terre. Enfin, c'est très variable, ouais, en fonction du légume.
Oui, et puis en fonction aussi, voilà, de ce que j'allais dire, des récoltes. C'est-à-dire que quand voilà, il y a des semaines où il y a des paniers qui sont peu fournis, à contrario, quelques mois plus tard, les maraîchers vont essayer de compenser. C'est pour ça l'intérêt aussi d'adhérer pour une saison entière. C'est-à-dire que parfois, on a des personnes qui viennent, qui adhèrent un mois ou deux et qui nous disent « Oui, moi, les paniers, je ne suis pas trop satisfaite. Ça fait 2 mois que j'ai des breads. » Oui. C'est sûr, mais c'est sur 2 mois. La MAP, c'est aussi l'idée de...
C'est combien de temps l'engagement chez vous, alors ?
Nous, c'est 6 mois, généralement. Donc, c'est de janvier à fin juin et puis de juillet à décembre. Et donc, vraiment, pour pouvoir profiter d'une AMAP, c'est se rendre compte sur 6 mois. Et en métropole, c'est également sur 6 mois. Hein. Alors, on marche plus par saisonnalité en métropole, hein, où on divise l'automne, l'hiver avec le printemps, l'été. Mais il faut vraiment faire une saison entière d'AMAP pour se rendre compte, en fait, voilà, de l'opportunité d'avoir justement tous ces paniers. Et quand ils ont plus de produits, ils n'hésitent pas à nous en ajouter. Hein. Des fois, on a plus de 6 parts par panier. Hein. Des fois, on a même 7, 8 parts. Ils compensent. Et puis, par contre, le jeu aussi de la MAP, c'est pour le consommateur, c'est également d'être solidaire, en fait, du maraîcher.
C'est ça.
Et c'est-à-dire que quand on passe des périodes difficiles où les récoltes sont moindres, c'est de se montrer solidaire et maintenir le même prix réglé au producteur.
Parce que de toute façon, les AMAPiens, ils payent la saison à l'avance.
Alors, ils payent... ils peuvent payer au mois, ils peuvent payer à l'avance ou en tout cas tous les mois. Ils peuvent mensualiser leur versement, mais en tout cas, les maraîchers, eux, sont payés...
En début de mois.
Ouais, en début de mois, voilà. C'est ça, en début de mois, donc c'est-à-dire avant même d'avoir livré les légumes.
Exactement.
Mais du coup, si les AMAPiens, ils payent tous les mois, ça veut dire que s'il y en a un qui en a marre, il peut arrêter
Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que même si la personne paye tous les mois, en fait, elle s'engage quand même jusqu'à la fin du semestre.
Oui.
Donc, il y a un engagement, donc à partir du moment où...
Un engagement moral, en fait.
Voilà, où on signe le contrat... le contrat est signé jusqu'à la fin du semestre. Signé. Et donc, du coup, la personne s'engage à verser. Donc, normalement, soit à verser tout au démarrage, soit à verser de manière régulière jusqu'à la fin du contrat.
Ok, oui. Parce que j'avais entendu un système de aussi chèque avec au dos, on met tout le mois.
C'est ça.
Et en fait, encaisse, c'est encaissé après au mois par
mois. Voilà, les gens s'engagent par contrat, c'est écrit. Donc, ils sont redevables des sommes. Par contre, c'est vrai que ça peut être une grosse somme. Il peut y en avoir pour 300, 400 euros pour 6 mois de saison. Et ça peut être compliqué quand même de payer 300, 400 euros d'un coup. Donc, par contre, on propose une mensualisation. Mais par contre, le contrat, les personnes qui s'engagent pour toute la saison.
Et alors, comment on fait les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Waouh, génial, je veux adhérer ». Comment ça se passe ?
Alors l'idéal, c'est de passer à la raffinerie un mercredi à partir de 17h30. Comme ça, ça permet d'échanger avec les autres AMAPiens, de voir aussi les compositions des paniers. Et il y a forcément un bienveillant qui est présent pour répondre à toutes les questions des personnes.
Parce que du coup, quand on adhère, quand on s'engage pour une saison, il y a des fois où aussi on doit venir faire la distribution des paniers, c'est ça ?
Ça fait partie du principe de la MAP, voilà. De donner un coup de main. Du coup, quand la personne signe son contrat à MAP, elle doit, entre guillemets, elle doit 4 heures de volontariat. Alors, soit à la MAP, soit à la raffinerie, parce que du coup, il y a d'autres actions de volontariat aussi donc, au sein de la raffinerie. Donc là, on l'a élargi. Mais moi, je trouve que c'est toujours sympa de venir même faire une distribution de 2 heures pour rencontrer aussi d'autres AMAPiens, pour pouvoir rencontrer aussi les maraîchers qui livrent à ce moment-là. Et puis de pouvoir échanger, c'est un bon moment à passer ensemble.
Ok. Est-ce qu'on a fait le tour
Venez à la raffinerie. Venez à la MAP.
Moi, j'ai une question pour Johnny. Est-ce que tu distribues tes fruits et légumes ailleurs qu'à la MAP ? Est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, aujourd'hui... En dehors de la raffinerie, je livre aussi un groupe de grande distribution. Donc c'est tout nouveau, hein. C'est un projet qui vient de sortir, on va dire, de l'eau il y a à peine 2-3 mois, c'est les fleurs comestibles. Donc que les amapiens ont pu déjà voir dans le panier.
Oui, je les ai vus, les petites fleurs.
Quelques temps. Et là, c'est maintenant, c'est une demande qui a été faite au niveau de la grande distribution, parce qu'eux-mêmes, ils les importaient de métropole. Et pour moi, je me suis dit, c'est bête d'avoir une production qui vient de l'extérieur, alors qu'ici, localement, c'était possible de le faire. Donc, c'est pour montrer encore qu'il y a de la place à prendre au niveau des parts de marché, donc tout ce qui dit un petit peu des projets innovants. Donc, aujourd'hui, il y a de la fleur comestible que j'écoule dans certaines grandes surfaces.
Et si on veut te contacter directement, venir acheter directement à ton exploitation, c'est possible ?
Non, je pense que je vais privilégier la raffinerie, la MAP. C'est de bonnes raisons que c'est déjà parce que il y a déjà un circuit qui s'est mis en place, hein, ça fonctionne très bien. Et aussi pour pouvoir gérer tout simplement la qualité du travail sur l'exploitation. Parce que avoir du monde par expérience, ça demande souvent plus de temps qu'il faut pour gérer. Hein. Quelqu'un qui vient pour 2-3 fleurs, on va dire, et on se retrouve avec 2 heures de discussion. Je ne suis pas contre, mais quand ça se répète dans la semaine, après ça devient compliqué pour gérer l'exploitation. Et puis, il y a aussi, il faut dire aussi, une qualité de vie derrière. Tout simplement, le fait que c'est bien organisé. Donc, je travaille, on va dire, à peu près 7 heures maximum par jour. Et aussi, j'évite maintenant tout ce qui dit les ventes, après, que ce soit le samedi ou le dimanche. Donc, plus de travail samedi, dimanche. Donc, c'est aussi de
horaire de bureau. C'est pas mal.
Exactement. Donc, c'est assez compliqué pour le dire dans le domaine agricole, je sais, mais moi, aujourd'hui, je le mets en pratique. C'est que je travaille du lundi au vendredi. Donc, après, voilà. Donc, c'est consacré à la vie de famille, on va dire.
Tu as bien raison.
Voilà. C'est raison de plus pour passer sur 1000 mètres carrés au lieu de s'étendre, on va dire ça.
C'est le temps de vivre.
C'était aussi la raison pour laquelle on avait voulu que Johnny vienne, parce que justement, quand on avait fait le chantier participatif, on avait pu échanger avec Johnny justement là-dessus et sur sa belle philosophie de vie où je trouve que tu as trouvé un bon équilibre entre le travail, mais voilà, ta vie personnelle, la vie de famille. On remet chaque chose à sa place et parfois, à l'heure où des fois on est dans un monde qui va très, très, très rapidement, ça s'arrête jamais, tu pourrais tout le temps ne jamais arrêter d'avoir toujours plein de projets. Et puis
et on devient esclave de son travail, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et tu ne l'es pas.
Non. C'est un choix que j'ai fait et ça me va bien. Donc aujourd'hui, comme je le dis encore, c'est du lundi au vendredi. Et après, d'ailleurs, lors de votre visite, le samedi, j'ai dit que c'était exceptionnellement fait le samedi parce que normalement, c'était consacré à la famille. Bon, après, il n'y a pas de souci. Hein, une journée de solidarité, comme j'ai dit, avec la MAP, ça ne pose pas de problème. Mais logiquement, le samedi, c'est consacré à la famille. Et puis, les activités que je fais avec l'Exatron, tout simplement.
Et une autre question pour vous trois. Du coup, comment la rencontre s'est faite entre la MAP et Johnny ?
Alors moi, la MAP, j'ai connu la MAP depuis tout le début, hein, quand c'était au Guillaume. À l'époque, je travaillais avec un collègue qu'on était ensemble. Et c'est lui qui m'a parlé de la MAP, le concept de la MAP. Et puis, on s'est lancés tous les deux ensemble. Et malheureusement, en cours de route, il a quitté la MAP. Et puis, je lui ai dit, écoute, c'est dommage, mais voilà, moi, je suis toujours là. Mais voilà, donc, le concept était bien, parce que je me souviens à l'époque, on livrait des légumes, même le samedi, le dimanche, et puis on partait avec nos légumes. Des fois, on avait pas assez, ou sens contraire. Et des fois, on avait trop, et puis y avait malheureusement ce gaspillage. Donc, voilà encore l'un des points forts de la MAP, c'est de savoir exactement les produits qu'on va emmener sur la MAP. Et on sait très bien que le produit, il va être consommé, valorisé et sans perte. Ça, c'est très important de le dire. Alors que encore malheureusement, sur les marchés, on voit qu'il y a énormément de pertes. Et ça on ne sait pas encore aujourd'hui comment le valoriser.
Tellement d'avantages à adhérer à la MAP. Voilà. Tout au long de l'émission, on en retrouve des points positifs.
En tout cas, c'est beau parce que je vois que y a un joli lien qui s'est créé entre vous. Alix, je te vois, tu as des paillettes dans les yeux quand tu parles de ces échanges, de cette fois où tu es allé donc, chez Johnny, participer à tout ça, etc. Et c'est vraiment beau quand je vais retourner. Si je retourne acheter mes légumes dans un supermarché, je vais avoir honte. Bah, bim. Non, mais c'est vrai, c'est beau. Donc, venez adhérer. Et, donc, ça se passe le mercredi à partir de 17h30 jusqu'à quelle heure
19h.
Jusqu'à 19h, voilà, on vient, on se rencontre et on adhère, quoi.
Voilà.
Mais du coup, là, on est au milieu de... Comment ça marche? On est au milieu d'une saison et on peut quand même adhérer pour jusqu'à juin?
Oui, il nous reste encore des places. L'adhésion,
il y a un nombre limité, du coup.
Oui, mais là, on n'est pas encore... là, cette saison, peut-être un peu, on peut prendre...
Un peu compliqué, on va
oui,
dire.
Oui, un peu compliqué avec les intempéries.
Les aléas climatiques, voilà, qu'on a eu. C'est vrai que c'est pas peut-être le bon moment, mais bon, après, si les, on va dire, les Amapiens sont solidaires, ils peuvent comprendre et puis à la limite nous rejoindre. Il n'y a pas de souci.
Donc en fait, on peut venir adhérer maintenant.
Voilà.
Ok. Bah, super, merci beaucoup. En tout cas, ce concept, il existe dans le monde entier. Hein, ça a d'autres appellations. Par exemple, aux États-Unis, Community Supported Agriculture, c'est le CSA. En Suisse, Agriculture Contractuelle de Proximité. En Espagne, Agricultura Sostenida por la Comunidad. Et en fait, à la base, c'est originaire du Japon. Et ça s'appelait Teikei. Alors, je le prononce sûrement mal, mais ça veut dire mettre le visage du fermier sur la nourriture. Hein ? Voilà, et ça remonte au début des années 60. Donc c'est un chouette concept. Merci d'être venu parler de tout ça. Et c'est toujours agréable de parler à des personnes qui sont passionnées et qui aiment le sujet abordé. Donc merci. Donc merci Alix, Lisa et Johnny.
Merci, merci de nous avoir écoutés.
Avec grand plaisir.
Interviewé.
Oui, et puis la
c'est bien passé.
Prochaine fois, on pourra même le faire sur une exploitation.
On débarque avec l'enregistreur, là, le petit H4, on vient prendre des bruits de plantation et de...
Écouter la nature.
Écouter la nature, voilà. Exactement.
Le son des bringelles.
Ouais.
Et
merci,
des brettes chouchous.
Ah, les fameux. Eh bien, merci à vous pour cette interview. Et puis, rendez-vous donc un mercredi à 17h30 à la raffinerie. C'est tous les mercredis que ça se passe. Et puis, on n'est pas obligé de venir adhérer. On peut venir poser des questions, voir à quoi ressemble un panier, etc. Quoi. Enfin, voilà, juste venir en renseignement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Guillaume, pour la technique. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Micromonde. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et à bientôt.